Europe 1.
Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Il y a 180 ans, le naturaliste Charles Darwin commençait à publier ses observations recueillies au cours de son très grand voyage autour du monde. Elles lui serviront à formuler sa célèbre théorie de l'évolution des espèces. Elle bouleversera les idées reçues et lui apportera une notoriété mondiale et controversée. Aujourd'hui, je vous raconte son extraordinaire histoire. En avril 1878, un crime horrible secoue Paris. Une laitière, la veuve Gillet, a été assassinée. Son cadavre, dépecé, a été retrouvé rue Poliveau, à deux pas du Muséum d'Histoire Naturelle. On arrête rapidement les auteurs de cet assassinat. L'un d'eux, Paul-Louis Lebiez, est un étudiant en médecine, préparateur en sciences naturelles. Avant d'être arrêté, une semaine après le crime, il a eu le cynisme de prononcer une conférence publique intitulée « Le darwinisme et l'Église ». L'orateur expliquait que selon la sélection naturelle, la vie appartenait aux plus jeunes et aux plus forts, au détriment des gens faibles et âgés. Les deux assassins sont condamnés à mort. L'évêque d'Angers demande leur grâce au président de la République, le maréchal de Mac Mahon. Le prétexte est qu'ils auraient été pervertis par les théories de Darwin. Le chef de l'État est insensible à cette demande et refuse la grâce. Au mois d'août, un journal satirique, La Petite Lune, s'empare de l'affaire. André Gilles, célèbre caricaturiste, signe un article dans des mots très populaires. Il écrit
« Bien des gens ignorent ce qu'est Darwin. Sans le chourineur Lebiez, qui se croyait darwinien, vous ne sauriez peut-être même pas son nom. Eh bien voici ce que c'est. C'est un savant anglais, un naturaliste, un bûcheur. Il a dit que l'homme descendait du singe. L'homme est un singe transformé, perfectionné, sélecté, comme disent les gens qui ont de l'instruction. Alors, il va trouver ça. Si Lebiez avait escarpé la veuve Gillet, c'était la faute à Darwin.
Gilles illustre son propos par une caricature qui représente Darwin en grand singe pendu aux branches de l'arbre de la science. Darwin a l'habitude d'être caricaturé en singe. Cela a même fini par l'amuser. Mais cet exemple, caricatural, montre combien les théories du savant britannique ont bouleversé son époque. Il mettait en cause des convictions fondamentales et bien ancrées. Mais qui est donc Charles Darwin ? Charles Darwin est né le 12 février 1809 en Grande-Bretagne, à Shrewsbury, dans le Shropshire. Il bénéficie d'une double hérédité. Son père, Robert, est un médecin réputé. Son grand-père, Erasmus Darwin, était non seulement médecin, mais apprécié pour l'ensemble de ses œuvres scientifiques, littéraires et philosophiques. Sa mère était la fille de Wedgwood, le célèbre céramiste, inventeur d'un nouvel art de la porcelaine, associant le blanc à un bleu superbe et caractéristique. Charles naît donc dans un milieu fortuné et intellectuel. Sa mère meurt quand il a 8 ans, en 1817. Le jeune Charles entre au collège de Shrewsbury. Il poursuivra ses études à la faculté d'Édimbourg avec l'intention de devenir médecin, mais il y renonce. Il commence à se passionner pour l'histoire naturelle. Il suit les conseils de son père et opte, finalement, pour une vocation de pasteur. Il s'inscrit à l'université de Cambridge. Les 3 années qu'il y passe vont changer le cours de sa vie. Il ne sera pas pasteur, mais naturaliste. L'influence de 2 professeurs le marque profondément, le géologue Adam Sedgwick et le naturaliste John Stephen Henslow. Ce dernier, en 1831, lui conseille de postuler à l'emploi de naturaliste à bord du navire Beagle qui allait entreprendre un voyage de recherche scientifique autour du monde. Et pourtant, Charles Darwin a failli ne pas s'embarquer. Son père s'y opposait fermement, et il fallut que son oncle Wedgwood intervienne pour le convaincre. Une fois à bord, c'est pire. Le commandant Fitzroy ressent une aversion pour la physionomie de Darwin et surtout pour la forme de son nez. Toutefois, la situation va s'arranger, Darwin et le commandant deviendront d'excellents amis. C'était préférable car le voyage va durer 5 ans. Le parcours est incroyable. Ils visiteront de manière extrêmement poussée les nombreuses îles de l'Atlantique, du Pacifique, les côtes sud-américaines, néo-zélandaises et australiennes. Charles Darwin prend des notes et dessine tout ce qu'il voit sur d'innombrables carnets. Il fait des recherches géologiques, notamment sur la formation des récifs coralliens. Mais c'est surtout le domaine de la biologie qui va enrichir son esprit. Il observe la répartition géographique des fossiles sur les côtes sud-américaines et s'intéresse énormément à la faune des îles Galapagos au large de l'équateur. Cet extraordinaire voyage lui fournit une documentation gigantesque. Elle servira de base à ses recherches de savant. En 1837, peu après son retour à Londres, à partir de ses notes, il travaille à son premier livre sur la transmutation des espèces. Il publie le résultat de ses observations, participe à des réunions scientifiques. Il noue de nombreuses amitiés dans les milieux savants. Il devient secrétaire de la Geological Society. En 1839, il épouse sa cousine germaine, Emma Wedgwood, dont il était tombé très amoureux. La même année, Darwin devient membre de la Royal Society de Londres après avoir publié le journal de son voyage d'un naturaliste autour du monde. C'est une reconnaissance. Fatigué de la vie londonienne, Darwin, qui a une santé fragile, décide de s'installer dans le Kent, à Down, avec sa famille. Il y passera les 40 dernières années de sa vie. La maison est grande. Heureusement, car le couple va avoir 10 enfants. Il faut aussi trouver de la place pour les collections, documents, carnets et autres matériaux indispensables à ses travaux. Darwin n'arrête pas d'écrire et de publier. Il serait fastidieux d'énumérer tous ses ouvrages. Mais ce qui concerne la géologie, la biologie et la zoologie, tout cela va s'insérer, pierre par pierre, dans l'édifice auquel il est en train de travailler, l'origine des espèces. En faisant des recherches sur l'origine des espèces, Darwin n'est pas un précurseur. Beaucoup d'autres ont déjà travaillé sur la question. Dès l'Antiquité, deux théories ont tenté d'expliquer la genèse des espèces végétales et animales, le fixisme et l'évolutionnisme. Le fixisme, comme son nom l'indique, ne se pose pas beaucoup de questions. Tout ce qui est sur Terre, depuis la Terre elle-même, les végétaux, les animaux et l'homme lui-même, ont été créés tels qu'on les appréhende. L'idée d'une évolution des êtres organisés, de leur transformation et divergence à partir d'une souche commune, remonte à l'Antiquité grecque. On retrouve ces idées évolutionnistes à la Renaissance, mais sans plus. C'est au XVIIIe siècle que Buffon et les encyclopédistes préparent un schéma favorable à l'idée de l'évolution. Buffon était certainement un précurseur, mais n'a pas pu ou voulu exposer ses idées. Le vrai précurseur de Darwin, c'est le français Lamarck, disciple de Buffon. C'est au printemps 1800 que Lamarck, à l'âge de 56 ans, formule une théorie explicative de l'évolution. Ses travaux ont un grand retentissement, mais ne s'appuient pas assez sur des données scientifiques concrètes. L'idée qu'il expose sur les changements qui se sont produits chez les vertébrés pour s'adapter à l'environnement fait sourire. En effet, ce qu'on retient essentiellement de Lamarck est l'histoire de la girafe qui étire son cou pour atteindre plus facilement les hautes feuilles des arbres. Lamarck reste très prudent dans ses affirmations. Pour ne pas choquer l'Église, alors qu'il enseigne la zoologie au muséum, il minimise son engagement envers le matérialisme et ne va pas au bout de ses idées sur l'adaptation au milieu. Sans doute sa théorie était-elle trop en avance. Darwin la reprend, mais va beaucoup plus loin. En 1859, Darwin publie son ouvrage intitulé « De l'origine des espèces par voie de sélection naturelle ». Ces multiples travaux apportent un faisceau de preuves impressionnantes à la suite des explications qu'il propose dans des domaines très variés, qu'il s'agisse de botanique ou de zoologie. Darwin a observé la manière dont les éleveurs et les horticulteurs parviennent à créer des espèces nouvelles par la sélection et les croisements. Il s'aperçoit que des phénomènes identiques sont observables dans la nature. Il en conclut que la nature procède de la même façon et avec des moyens sans doute analogues. La question est de savoir pour quelles raisons la nature pratique cette sélection naturelle, aussi bien pour les animaux que pour les végétaux. Dans la nature, le nombre de germes produits dépasse largement les germes qui arrivent à maturité. Les causes de destruction sont nombreuses et variées. Darwin en arrive à penser que la mort a un effet sélectif dans la lutte pour la vie. Seuls les plus aptes survivent. Les individus qui présentent, par hasard, une variation favorable, morphologique ou physiologique, ont plus de chances que d'autres d'échapper à la destruction. Cette sélection naturelle, agissant d'une manière permanente, finit par avoir des effets sensibles sur de grands nombres. Au bout de longues périodes, et grâce à la sélection sexuelle, cela permet à ces qualités non seulement de se perpétuer, mais de se perfectionner. Cela entraîne une diversification de plus en plus grande des espèces et un perfectionnement constant dans l'adaptation au milieu. Le livre de Darwin connaît un immense succès. Il arrive à un moment où le positivisme triomphe. Or, Darwin propose une théorie claire, satisfaisante pour l'esprit, car elle énonce un système global. Darwin présente la sélection naturelle comme une constatation faite a posteriori. Il ne se prononce pas sur sa genèse. Sa théorie prend la vie comme une donnée, sans préciser si elle est due au hasard ou à une création. Cela permet d'insérer l'explication darwinienne dans un système théologique. À aucun moment, il n'évoque le commencement. Cependant, dès l'apparition de ce livre, les réactions scientifiques et religieuses sont violentes. Sa théorie bouleverse des convictions établies, dérange par exemple certains biologistes. Ils reprochent à Darwin de manquer de preuves scientifiques et d'explications sur les variations des espèces. Darwin ne fait que constater, il n'explique pas, et pour cause, la génétique ne naîtra qu'au XXe siècle. Darwin a eu des intuitions, mais elles ne seront prouvées que beaucoup plus tard. Quant à l'Église, elle est scandalisée par cette théorie, car elle met tout de même à mal la création, telle qu'elle est racontée dans l'Ancien Testament. De l'origine des espèces connaît 6 éditions successives, dont la dernière paraît en 1872. Entre-temps, Charles Darwin a publié « De la variation des animaux et des plantes sous l'action de la domestication ». Mais surtout, en 1871, il a brisé sa réserve sur la question de l'humanité avec « La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe », puis « L'expression de l'émotion chez l'homme et chez les animaux ». Désormais, après avoir éludé la question, Darwin suppose que l'être humain descend du singe. Les réactions sont violentes, à commencer par celle de l'Église, bien sûr. Les caricaturistes s'en donnent à cœur joie. Darwin est lui-même représenté en primate. Il conserve son visage, avec sa longue barbe, mais son corps est doté de l'anatomie pileuse d'un gorille. Il faut dire que Darwin lui-même leur avait ouvert la voie en écrivant, dans les dernières pages du livre « De l'origine des espèces »,
« J'aimerais autant, pour ma part, descendre du petit singe héroïque qui brava un terrible ennemi pour sauver son gardien, ou de ce vieux babouin qui emporta triomphalement son jeune camarade après l'avoir arraché à une meute de chiens étonnés, que d'un sauvage qui se plaît à torturer ses ennemis, offre des sacrifices sanglants, pratique l'infanticide sans remords, traite les femmes comme des esclaves, ignore toute décence et reste le jouet de superstitions les plus grossières. »
Ce n'est pas très aimable pour les méchants sauvages. Darwin va développer dans un autre ouvrage l'expression des émotions chez l'homme et chez les animaux, un concept qui va beaucoup frapper les Britanniques. La part d'animalité qui peut exister chez l'homme et la part d'humanité qui peut exister chez les animaux. Dans la filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, Darwin se livre à la première enquête systématique sur les habitudes et les choix sexuels dans le règne animal. Il y introduit le principe de la sélection sexuelle qui détermine les comportements des animaux, comme par exemple deux mâles se battant pour une femelle. Darwin s'intéresse beaucoup au paon mâle qui déploie sa traîne de plumes en éventail pour mieux séduire la femelle, ce qui est un lourd handicap lorsqu'il doit se battre contre un autre mâle. C'est le mâle qui fait le beau séduisant et non la femelle. Mais en dehors de ses études, Darwin s'est aussi penché sur les questions fondamentales de la botanique. Il a écrit des articles sur la fécondation des orchidées par les insectes, sur les plantes grimpantes, sur la fertilisation. Il a construit des serres dans sa maison de campagne et réalisé des expériences complexes sur ces plantes. Darwin pense que les végétaux jouissent d'un degré de sensibilité bien supérieur à celui qui caractérise les animaux dotés de fibres et d'organes nerveux. D'une façon plus personnelle, les études que Darwin a pratiquées sur la consanguinité montrent qu'elle n'est pas forcément nuisible à la descendance. C'est un problème qu'il avait torturé depuis son mariage. Il avait épousé sa cousine Germaine, perdu 2 de ses 10 enfants. Le chagrin qu'il en avait éprouvé était immense. C'est au moment de la mort de ses 2 enfants qu'il a perdu la foi. On se souvient qu'il avait voulu être pasteur. On mesure le poids de sa douleur. Mais il ne voulait ni troubler sa femme, profondément croyante, ni offrir à ses adversaires une raison supplémentaire de l'attaquer. Il ne s'est jamais déclaré officiellement athée. Pour l'anecdote, vers la fin de sa vie, il s'était intéressé aux vers de terre, démontrant leur immense utilité dans un ouvrage intitulé « Formation de terreau végétal sous l'action des vers », publié en 1881. On peut dire que Charles Darwin était un esprit universel. Il s'intéressait à tout. Il faisait son miel de tout, échafaudant de brillantes théories à chacune de ses découvertes. Il s'éteint chez lui, dans le Kent, le 19 avril 1882. En 1887, son fils publiera un livre posthume intitulé « La vie et les lettres » qui récapitule avec clarté l'ensemble de ses théories. Il contient une version abrégée de son autobiographie écrite à l'usage de ses enfants. Cet athée est enterré à l'abbaye de Westminster, qui est, comme on le sait, le lieu de sépulture des plus illustres Britanniques. Si cette plongée dans l'histoire des sciences vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Au cœur de l'histoire ».
« Au cœur de l'histoire » est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vasseau et Laurent Sirgui. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.